Here's a song that comes from Tanzania. Malaika, nakupenda malaika. Malaika, nakupenda malaika. Ingekuwa wa maliwe, ingekuwa wa hatada. Nashindwa na malisi na we.
Aujourd'hui, émission du mercredi 27 octobre, Dominique et Françoise vous présentent le livre de Michel Peraldi et Michel Sanson, paru à La Découverte en 2020, Marseille en résistance. Pour Marseille en résistance, qui a donc été écrit en 2019 et paru début 2020, nous avons invité Michel Sanson, l'un des auteurs, à se joindre à nous. Nous allons donc, comme d'habitude, faire des petites présentations et des lectures, mais de plus, nous aurons le plaisir d'avoir un certain nombre de réponses de Michel Sanson aux questions qu'on continue à se poser, même avec une bonne lecture du livre. Voilà, je voulais commencer aussi par vous donner des nouvelles d'Odile. Odile va mieux, vous savez peut-être qu'elle a eu donc quelques accidents pendant l'été. Elle est en maison de convalescence et elle vous envoie son grand bonjour. Elle est très contente d'avoir eu des nouvelles d'un certain nombre d'entre vous, donc n'hésitez pas à continuer à lui envoyer des petits messages. Donc, Marseille en résistance, bien sûr, analyse ce qui s'est passé dans la ville après le 5 novembre 2018, mais aussi, et surtout, j'aurais tendance à dire, sur un plan politique avant. C'est-à-dire que le livre part des effondrements de la rue d'Aubagne, mais revient sur les 20 années qui ont pu, dans la transformation politique, sociologique de la ville, expliquer un certain nombre des problèmes qui se sont posés à partir de novembre 2018. Donc nous allons commencer par lire des extraits du livre sur les effondrements du 5 novembre. Et puis, nous verrons avec Michel Sanson s'il veut bien nous dire, nous donner un certain nombre d'éclaircissements sur ce que Michel Peraldi et lui-même ont ressenti et, disons, mieux connu grâce à leur enquête réalisée sur le terrain.
Ce lundi 5 novembre 2018, il pleut sur Marseille sans discontinuer depuis déjà plusieurs jours. La pluie, on le verra, jouera un rôle politique dans les événements qui suivront. Soudain, dans un fracas de fin du monde, un immeuble s'effondre, puis un second qui lui était contigu par un effet de domino. Un troisième immeuble qui les jouxte sera abattu par les pompiers pour sécuriser leurs travaux de déblaiement. On est rue d'Aubagne, au cœur du noyau historique de la ville, à quelques centaines de mètres du vieux port. On parle de bombes, puis des effets de cette pluie exceptionnelle qui s'abat sur la ville. Mais les causes de l'effondrement apparaîtront très vite au grand jour. Une vidéo tourne en boucle sur Facebook, saisissant quelques minutes à peine avant le drame de travail, comme on le dit du bois, de l'immeuble sur lui-même. Un jeune locataire a eu la présence d'esprit de filmer les énormes fissures qui s'ouvrent dans les cloisons, les portes et fenêtres qui ne ferment plus. On entend distinctement des craquements dans les murs. Le cinéaste amateur s'enfuit une dizaine de minutes avant le drame. Le premier immeuble effondré était fermé, condamné par les services municipaux pour vétusté. Depuis son achat, morceau par morceau en 2006. La Soleam, société mixte en charge de l'immeuble, venait d'acheter en 2016 le dernier morceau au rez-de-chaussée et s'apprêtait à y installer une crèche. Il est très vite évident que la vétusté est la cause principale du drame. L'immeuble semble pulvérisé, émietté pierre par pierre. Comme tout le monde le craint, les pompiers vont trouver des cadavres sous l'amas de décombres. 8 personnes auront perdu la vie dans la catastrophe. On le saura à la publication du bilan définitif, 48 heures plus tard. Le maire, Jean-Claude Gaudin, et le préfet se déplacent ensemble, l'air soucieux mais sans vraiment sembler prendre la mesure de la catastrophe. La presse rapportera peu après des plaisanteries du maire qui serviront à insister parfois lourdement sur son incompétence et son indifférence au drame, voire sur la légèreté coupable avec laquelle il a réagi avec les autres élus, sujets qui seront au cœur d'un déchaînement médiatique. Sur le moment, c'est dans l'éditorial de Libération du 16 novembre 2018, signé Laurent Geoffrin, où un dossier d'une dizaine de pages est consacré au drame, qu'est prononcée le plus clairement la condamnation. L'effondrement meurtrier du quartier de Noailles sonne le glas d'une construction politique aussi vétuste que les immeubles négligés par la mairie. Ce constat sera ensuite partagé avec une rare unanimité. La mairie est l'institution responsable, coupable de négligence envers l'habitat vétuste, plaie de la ville. Elle est aussi accusée d'incompétence dans le traitement et l'évaluation du phénomène. Enfin, de mépris et de légèreté dans le traitement émotionnel, le théâtre politique du drame et de la misère dont il est le révélateur. Les révélations s'enchaînent qui trouvent leur paroxysme émotionnel lorsqu'on apprend que 3 élus de la majorité municipale sont eux-mêmes des marchands de sommeil, propriétaires de taudis qu'ils louent dans le centre-ville. Comme saisi d'une sorte de fébrilité compensatoire, dans les heures qui suivent le drame, puis pendant un mois entier, les services municipaux vont dès lors procéder à des dizaines, puis une centaine, d'expulsions d'immeubles qui, pour certains, sont dans un sévère état de délabrement. Et pour d'autres, vétustes, mettant à la rue près de 2000 personnes. L'opinion, informée par une presse locale que l'on n'a jamais vue aussi attentive, n'y verra que brutalité des expulsions, négligence des dispositifs d'accueil et de prise en charge. La rumeur monte, on signale des expulsés logés dans des hôtels aux périphéries de la ville, on constate l'affolement des services.
Donc, Michel Sanson, on voit bien dans ses premières pages, d'une part la description des faits, leur explication au plus près de l'événement, c'est-à-dire... En effet, la vétusté des lieux qui n'a pas été appréhendée de façon convenable par la municipalité, qui n'a pas été traitée par la municipalité. Et on voit bien aussi l'affolement des politiques qui n'avaient pas du tout mesuré, comme vous le dites, la gravité de la situation et qui n'avaient rien mis en place pour essayer de pallier la situation, le relogement en particulier qui va être très vite nécessaire, alors qu'il y a déjà à Marseille un gros problème de logement. Et donc la question que vous posez, c'est comment s'explique l'incapacité, voire éventuellement l'incompétence de cette municipalité face aux événements, bien sûr, mais également de façon plus profonde depuis de nombreuses années à Marseille.
Oui, c'est effectivement le fil conducteur de notre livre. Mais je voudrais préciser que l'idée de faire un livre sur qu'est-ce qui a changé à Marseille nous est venue, Peraldi et moi, avant ces effondrements, parce que nous avions écrit « Gouverner Marseille » en 2005-2008, je ne me rappelle plus. Et nous avons proposé de revenir sur ce terrain pour voir en quoi cette ville, sur le plan social, politique, économique et autres, avait changé. Or, on avait commencé le travail quelques mois avant et ces effondrements sont arrivés. Effectivement, c'était un choc, évidemment, pour toute la ville, un choc émotif, émotionnel, j'y reviendrai sur le mot, énorme. Mais ça a fait, évidemment, basculer notre travail. Donc on a commencé par ça parce qu'on a reconstruit l'idée de ce livre. Et effectivement, on a constaté que cet événement était singulier et en particulier pour une raison très singulière, si je peux dire, c'est que Marseille est avec Naples probablement la seule ville d'Europe où restent beaucoup de pauvres au centre-ville. Oui. C'est-à-dire que Marseille n'ayant pas de banlieue, au sens propre du terme, les villes autour de la métropole sont toutes plus riches que Marseille, globalement, à tout point de vue. Il se trouve aussi qu'à, comme on le dit, à 100 mètres du Vieux-Port, ce lieu touristique avec son ombrière, etc., il y a aussi des milliers de gens sans moyens, pauvres, Je dis pauvre, exprès le mot est compliqué, parce que les pauvres, c'est très difficile à définir. Parce que dans les morts, dans les 8 morts, il y a une étudiante, il y a un artiste, et puis il y a des gens de peu qui vivent dans ce quartier de Noailles. Et donc tout ça, ça nous a révélé que cette ville était plus très connue par ceux qui la dirigeaient. Pour prendre un exemple, parce qu'on a suivi aussi les conseils municipaux régulièrement avant les effondrements et après, pendant qu'on rédigeait ce livre, on s'est rendu compte d'une chose, c'est que ces élus, pour la majorité d'entre eux, et en particulier pour l'équipe, enfin la majorité Godin, connaissaient très mal leur ville. En gros, Noailles, ils n'avaient jamais fait les courses là-bas. Mmh. Pendant les campagnes électorales, ils y allaient, un peu. Mais hop, 10 minutes, c'est tout. Et pareil sur les plages, d'ailleurs, ils ne connaissent pas les plages, ils ne vont jamais à la plage. Et ils discutent pendant une heure et demie de ce qui se passe sur la plage. Donc cette déconnexion de l'appareil politique, en particulier des élus, par rapport à la ville, nous a semblé très significatif de ce qui s'était passé depuis 25 ans, parce que, un, la majorité était politiquement restée la même, mais le personnel politique avait un peu changé. Voilà. Et donc, autour de cet effondrement, on s'est permis ce jeu de mots un peu cynique. Il révélait l'effondrement du système Godin qui s'est révélé après aux élections municipales, puisqu'elles ont succédé un an et demi après, même si elles ont été un peu compliquées par le Covid, finalement, a révélé que ce système était vétuste, au sens il ne savait plus ce qui avait changé dans cette ville. Je vais donner juste un mot. Par exemple, ville ouvrière, c'est entièrement faux, il n'y a plus d'usine à Marseille. Ils ne savent pas, ou ils n'ont pas compris qu'il y a 55-60 000 étudiants à Marseille. Ils n'ont pas compris qu'il y a une masse significative d'intermittents du spectacle, pauvres, mais acteurs. Et ces gens-là, ils ne les ont pas vus. Je dis ça pourquoi ? Parce qu'on va trouver ces catégories dans la nouvelle municipalité. À petite échelle, mais ils sont là. Voilà, donc c'est comme ça que le livre a été construit, etc. Et je finirai en disant qu'en même temps, on s'est aperçu que le système était vieux, mais il venait de loin. Et il y a des choses qui n'avaient pas changé, des choses qui avaient vieilli, comme les réseaux sociaux, ça n'existait pas en 2006-2008. Par exemple aussi, quand on regarde le paysage politique en 2019, on s'aperçoit quoi ? Tiens, il y a des femmes. En 2005, il n'y en a pas. Il y en a qui agissent un peu, mais des élus reconnus, que ce soit à droite, à gauche ou dans les collectifs, on s'aperçoit que les femmes sont nombreuses. Est-ce que ça change les choses ? J'en sais rien. D'ailleurs, on n'en sait rien. Mais on constate ça. Voilà, donc on relie ces événements à ce qu'était cette ville 15 ans avant. On s'aperçoit que des choses ont bougé, d'autres pas du tout.
Oui, donc en effet, c'est bien les changements à Marseille que vous avez essayé d'étudier. On va revenir sur les différents points que vous venez de citer. D'abord, en effet, les transformations politiques. Le fait que des nouvelles catégories socioprofessionnelles arrivent dans le conseil municipal, arrivent à la direction des affaires, comme on le dit. Et justement, très souvent, ce sont des affairistes qui arrivent à la direction des affaires publiques. Les femmes, vous en avez parlé. Et puis, donc on va revenir dessus, bien sûr. Et puis, ces fameux collectifs qui vont peu à peu se mettre en place, enfin, qui se sont mis en place, disons, dans, en effet, les 10 ou 15 dernières années, et qui, là aussi, font apparaître des catégories socioprofessionnelles nouvelles, comme vous le disiez. Alors, revenons d'abord sur les transformations politiques. En fait, vous partez de ce que, finalement, la municipalité Godin s'est mise en place comme, on pourrait dire, dans la ligne de la municipalité de Fère. On a l'impression que, à part les changements purement politiques, les changements d'étiquette politique, finalement, il y a beaucoup de personnes appartenant à la municipalité Godin en 1995 et au début des années 2000 qui restent ce que vous appelez les héritiers du deférisme. Et ce qui va changer vraiment, c'est dans les années qui suivent 2005 par exemple, le fait que là, en effet, se mettent en place un certain nombre de changements du personnel politique, des élus surtout, parce que vous dites aux catégories socioprofessionnelles habituellement représentées, comme les médecins, les enseignants, etc., vont succéder des catégories nouvelles et vous parler en particulier des affairistes et des promoteurs. Donc on va commencer par lire ce que vous avez écrit là-dessus et puis vous nous donnerez un certain nombre d'explications.
Au fil des mandats, cette architecture professionnelle va se modifier jusqu'à laisser apparaître une toute autre configuration avec les élections municipales de 2014. Enseignants et médecins, surtout, disparaissent alors de la majorité municipale. En 2014, les entrepreneurs, dirigeants de sociétés ou hommes d'affaires, selon différentes appellations qu'ils se donnent eux-mêmes, ou que leur attribue la presse, sont largement représentés dans la majorité, laquelle compte 66 conseillers municipaux sur une centaine. Ils sont une bonne dizaine, dont 4 marchands de biens immobiliers. On pourrait leur associer les 9 cadres commerciaux, dont 2 travaillent aussi dans l'immobilier, et les 6 commerçants. Au total, une bonne trentaine de membres de la nouvelle municipalité exercent un emploi ou une fonction dans l'industrie, les affaires, le commerce ou une profession libérale commerciale.
Voilà, donc ça, c'est véritablement le changement de personnel. Et en particulier, on l'a vu avec les effondrements de la rue d'Aubagne, non seulement les élus ne sont plus les mêmes, mais les élus, parce qu'on vient de le voir, ils appartiennent au monde des affaires, font même, pour 3 d'entre eux, ils sont impliqués donc dans les effondrements de la rue d'Aubagne, pour 3 d'entre eux, ils sont ce qu'on appelle des marchands de sommeil. Donc vraiment des personnes qui ont investi dans l'immobilier vétuste pour vraisemblablement à terme le transformer et y faire des bénéfices. Hélas, ça n'a pas été transformé à temps dans la rue d'Aubagne, mais il est certain que les opérations immobilières ont frappé la population de Marseille. Par exemple, on avait parlé, bien sûr, des nouveaux quartiers de la Joliette, de la rue de la République, etc. Vous pouvez nous en dire un peu plus là-dessus ?
Oui, ce que on remarque quand on regarde ce nouveau personnel politique majoritaire jusque 2020, c'est aussi autre chose. C'est que les élus, ne viennent plus des partis politiques. Vous avez fait allusion avec raison au fait que, par exemple, M. Godin était dans la majorité de fer pendant des décennies, que Mme Vassal a été choisie par M. Godin comme son héritière, il employait le mot, et elle se revendique héritière d'ailleurs d'une petite entreprise dans le textile vendu aux soldats. Ça, c'est une chose. Mais ce qui nous a beaucoup frappé, c'est que ce n'est plus les partis qui forment. Les partis, on s'en aperçoit, et justement, avec Peyrady, on aime beaucoup ça, on voit une chose et on va élargir le champ. Les partis politiques ont quasiment disparu. C'est-à-dire qu'il y a des nouvelles formations politiques, la France Insoumise, bien sûr, la République En Marche, qui n'existait pas avant, qui sont des étranges machines, parce qu'il n'y a pas de réunion. On s'inscrit sur un clic. Et donc, je suis au parti. Qu'est-ce qu'il a fait ? Il dit ça parce qu'on a interrogé beaucoup de gens de la République En Marche. On appuie sur un clic, clac. Et puis voilà, on se réunit, on se réunit pas, on ne sait pas trop. De toute façon, c'est le chef qui décide. Dans la France Insoumise, comme dans la République En Marche, c'est le chef qui décide. Donc tous ces gens qui sont les acteurs sociaux et politiques, oui. Auparavant, ils étaient formés par le Parti communiste, le Parti socialiste, le parti de M. Godin qui existait et qui a fondu. Et ça nous a paru très important parce qu'on voit apparaître à ce moment-là plus simplement, plus clairement qu'avant, les intérêts de ces élus. Nous soulignons que ces gens sont membres de ce qu'on appelle la petite bourgeoisie. Mmh. La grande bourgeoisie, ceux qui ont vraiment de l'argent, M. Veolia, M. X, ils s'en foutent complètement.
Oui.
Ils sont pas là. Ils sont pas au conseil municipal. Monsieur CMA-CGM, je dis ça pour dire des grandes entreprises qui existent à Marseille, ils en ont rien à foutre de la mairie. Donc c'est cette couche qui dépend d'autres choses que de ce qu'elle sait faire, elle, qui compte. Par exemple, des entrepreneurs ou des gens qui louent des bus pour les croisières, ok, ils sont là, mais eux, ils ont 3 bus. Le grand croisiériste, lui, il est américain ou italien. Donc c'est cette petite bourgeoisie locale qui, utilisant ce qui peut l'être ou travaillant de telle ou telle façon, le fait. Mais ce n'est pas la grande bourgeoisie. Je dis ça parce que souvent, on dit la grande bourgeoisie, on ne sait pas très bien ce que c'est. Nous, on sait ce que c'est. Il y a des gens qui ont des entreprises avec des dizaines de milliers d'entreprises, d'employés, de salariés. Oui. Là, pas du tout. les gens qu'on cite là, ils ont 2, 3, 4 salariés. C'est des petits en plus. Et je finis sur une chose. Il faut faire attention parce que ça a beaucoup compté. Parce que dans la vie politique, il y a toujours des questions morales. Effectivement, il y avait un ou deux qui étaient des marchands de sommeil. Mais ça veut dire quoi, marchands de sommeil? C'est très compliqué. Autant il y a des marchands de sommeil qui sont des escrocs, réellement. Ils savent ce qu'ils font. Par exemple, dans telle cité, ou des quartiers nord, on a des gens qui louent à des gens qui n'ont pas de moyens, etc., et qui leur piquent de l'argent, etc. Là, non, parce que l'appartement qui s'est effondré, l'immeuble qui s'est effondré, il appartient à la Soleam. Mmh. La Soleam est une institution qui dépend, une association, enfin, qui dépend de la mairie, mais ce n'est pas le patron de la Soleam qui est un marchand de sommeil. Ils ne font pas le boulot, ils ne le comprennent pas, ils le font mal. Mais ce n'est pas le patron de la Soleam qui va gagner de l'argent, pas du tout. Donc on va appeler marchand de sommeil des espèces très différentes. Autant, ils sont responsables de l'immeuble, les gens qui en possèdent ou qui le réhabilitent.
Ils sont responsables de son état.
Ils sont responsables de son état. Mais le fonctionnaire ou l'élu qui s'occupe de la Soleam, lui, il ne va pas gagner de l'argent avec ça. Mmh. Donc je dis ça parce que dans marchand de sommeil, souvent, on met un peu tout. Je veux dire par là que nous n'écrivons pas, et le choix délibéré, que la municipalité Marseille, de Gaudin, c'est une bande de marchands de sommeil. C'est pas vrai. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas un.
Oui,
il peut y avoir un escroc partout. Il peut y en avoir... Bref. Donc je tiens à souligner ça parce que, en fait, souvent, quand je le répète sur le champ politique, on dit ouais, c'est tous des marchands de sommeil. C'est pas ça. C'est pas comme ça que ça marche. Et ça ne veut pas dire que les choses sont bien faites. Je finis pour dire aussi que après ces effondrements, il y a eu le collectif Noailles dont on va reparler, mais il y a eu aussi les trois plus grandes manifestations à cause locale, c'est-à-dire marseillaise, dans les rues de la ville, depuis l'assassinat d'Ibrahim Ali 30 ans avant. Jamais à Marseille, des manifestations aussi massives n'avaient eu lieu, je répète, pour une cause locale. Je ne parle pas d'une manifestation confédérale, CGT, FO, etc., nationale sur les retraites, où il y a beaucoup de monde à Marseille. Je ne parle pas de ce type de manifestation. Or, nous avons scruté toutes les manifestations qui ont eu lieu. Jamais il n'y en a eu tant de monde, et trois fois de suite pour les trois grandes manifestations qui ont été co-organisées par le collectif Noailles après les effondrements de la rue d'Aubagne, et qui ont ensuite, je crois, eu un effet majeur sur le destin politique de la ville.
Oui, ben enfin, effectivement, malheureusement, il y a eu 8 morts. Donc ça peut expliquer que les populations se déplacent, ça peut expliquer que les gens se sentent concernés. On a véritablement un mouvement populaire qui se constitue autour du drame qu'ont vécu, bien sûr, les personnes qui sont décédées et leurs familles, mais aussi autour de, on en a parlé tout à l'heure, tous ces mal logés, tous ces expulsés. Il y a, à cause des effondrements de la rue d'Aubagne, une vraie prise de conscience d'une part importante de la population. Et puis, parce qu'on l'a dit aussi, ces îlots étaient au cœur du centre-ville, au cœur d'une ville qui, à cet endroit-là, mais tout autour aussi, est assez ancienne. Donc, dans cette ville ancienne, habitent des populations qui sont loin d'être démunies, mais qui, d'un seul coup, se sentent aussi concernées et qui se disent « mais, au fond, ça pourrait nous arriver ». Donc, tout ce problème du centre-ville est très vivement ressenti, d'autant que, et ça, vous en faites part de façon analytique, de façon vraiment fouillée dans votre livre, cette prise de conscience populaire, elle s'oppose à ce que vous avez appelé la mise en place d'une économie résidentielle et spéculative. Vous avez dit que les élus « affairistes » entre guillemets n'étaient pas forcément des escrocs, bien sûr. Enfin, on peut espérer qu'ils ne le sont pas tous, bien sûr. Mais ce sont quand même des gens qui sont des affairistes. Et donc, il va y avoir, je pense, une espèce de cristallisation d'opposition entre des élus qui sont ressentis comme, même s'ils ne s'en mettent pas plein les poches, comme on dit vulgairement, des gens qui sont là, en effet, pour leur bénéfice, en même temps que pour la gestion de la ville, et qui, en effet, trouvent une opposition en face d'eux, parce que, au contraire, il continue à y avoir au centre-ville toute une population, outre les couches vraiment populaires, toute une population d'intellectuels, d'enseignants, de travailleurs sociaux, etc., qui sont sensibles au changement et qui veulent le changement. Donc, on va reparler, là, en lisant votre livre, en lisant des extraits de l'économie résidentielle et spéculative, et on verra ensuite comment, précisément, les collectifs vont peu à peu s'opposer à ces affairistes.
L'émergence d'une économie résidentielle et spéculative. C'est symboliquement 2013, année où Marseille fut capitale européenne de la culture, qui marque dans la plupart des discours quelque chose d'un renouveau économique avéré pour la ville. La municipalité, avec les cercles économiques qui autour d'elle s'en attribuent le mérite, y voit alors une sortie de la crise industrielle et du marasme dans lequel la ville s'était enfoncée depuis la fin de la guerre. Pour l'essentiel, combinant activités de service, tourisme et relance de la construction, ce regain de l'économie urbaine relève bien de l'économie résidentielle. Des équipements nouveaux ont attiré des publics dont l'ampleur permet d'atteindre des niveaux de rentabilité qui en font des activités motrices. Elles produisent alors, c'est le terme le plus employé par les notables, des retombées économiques. Marseille, c'est vrai, a vu arriver des millions de croisiéristes en escale à partir de 1996. Et lancé en 1995 à l'initiative du maire Robert Vigouroux et de l'État, l'opération d'urbanisme Euroméditerranée et le quartier qui en est sorti 8 ans plus tard, ex nihilo, ou presque, sur les anciens espaces portuaires de la Joliette, ont attiré des entreprises, créé des emplois et relancé le marché immobilier dans un périmètre dépassant celui de l'opération. Enfin, les équipements et les espaces publics qui ont pris corps dans le nouveau quartier ont donné une autre image de la ville et attiré des foules de visiteurs venus parfois de très loin. Au Musée des civilisations de l'Europe et de la Méditerranée, MUCEM, inauguré en 2013, les foules se pressent. On y comptait en 2016 quelque 1,5 million de visiteurs depuis son ouverture et entre 400 000 et 600 000 entrées payantes annuelles. Les terrasses du port, centre commercial concédé sur l'espace portuaire, n'ont pas désempli dès leur ouverture en mai 2014. De ce renouveau, largement soutenu par les investissements publics, semblent jaillir de nouvelles figures entrepreneuriales. Marseille a retrouvé une bourgeoisie, des capitaines d'industrie affichant leurs valeurs et une sorte d'identité locale. En un pétillement de reportages sur papier glacé, de documentaires et de longues séries de chiffres affichés, tout semble évoquer la renaissance d'une ville par la transformation de son front de mer. Mais cette agitation évacuée, brouillard d'images et de récits hagiographiques répétés à l'envi dans la presse, quelles logiques économiques soutiennent ce renouveau? Et surtout, qui en profite et sur quel mode?
Bon, on va laisser cette question. C'est vrai qu'on l'a dit, il y a quand même effectivement des très grandes entreprises, voire internationales, qui sont alliées ici à celles qui mettent en place le développement de la ville. Mais on va donc laisser un petit peu de musique et on reviendra sur ces questions et surtout sur les transformations sociologiques après notre pause musicale avec Ayam.
Petit Fernac a souhait devenir grand. C'est pourquoi il s'obstine à jouer les sauvages dès l'âge de 10 ans. Devenir adulte avec les infos comme mentor, c'est éclater les tronches de ceux qui ne sont pas d'accord. À l'époque où grand frère était gamin, on se tapait des délires sur Blanche Neige et les sept nains. Maintenant les nains on gicle les Blanche Neige et tape éclate des types claques dans Mortal Kombat. À 13 ans il aime déjà l'argent, avide mais ses poches sont arides. Alors on fait le caïde dans des booms qui sont désormais des soirées plus de sirop dessert. Petit frère de tes pierres, je ne crois pas que c'était volontaire. L'adulte c'est certain, indirectement a montré que faire le mal c'est bien. Demain ses cahiers seront pleins de ratures. Petit frère fume des spliffs et casse des voitures.
Petit frère a déserté les terrains de jeu.
Il marche à peine et veut des bottes de 7 lieues.
Petit frère veut grandir trop vite, mais il a oublié que rien ne sert de courir. Petit frère.
Life as a shorty shouldn't be so rough. Life as a tiger, petit frère rêve de bagnole, de fringues et de thunes, de réputation, de dur. Pour tout ça, il volerait la lune. Il collectionne les méfaits, sans se soucier du mal qu'il fait, tout en demandant du respect. Peu lui importe de quoi demain sera fait, de donner à certains des raisons de mépriser son cadet. Dans sa tête, le rayonnement du tube cathodique a étouffé les vibrations des dames-dames de l'Afrique. Plus de cartables, il ne saurait pas quoi en faire, il ne joue plus aux billes, il veut jouer du revolver. Petit frère a jeté ses soldats pour devenir un guerrier, pensez au butin qu'il va amasser.
Petit frère a déserté les terrains de jeu,
il marche à peine et veut des bottes de 7 lieues.
Petit frère veut grandir trop vite, mais il a oublié que rien ne sert de courir. Petit frère,
demain tout ira mieux, tu verras.
Les journalistes font des modes, la violence à l'école existait déjà. De mon temps, les rackets, les bastons, les dégâts, les coups de patte dans les pare-brises, des tirs des instituteurs, embrouille à coups de cutter. Mais en parler au journal tous les soirs, ça devient banal. Ça s'imprime dans la rétine comme situation normale. Et si petit frère veut faire parler de lui, il réitère ce qu'il a vu avant 8h30. Merde, en 80 c'était des états de fait, mais là ces journalistes ont fait des états. Et je ne crois pas que petit frère soit pire qu'avant, juste surexposé à la pub aux actes violents. Pour des grandes causes et le meilleur citron, la cible numéro 1, le terrain des produits de consommation. Et pour être sûr qu'il s'en procure, petit frère s'assure, flingue à la ceinture.
On sait ce que tu es quand on voit ce que tu possèdes. Petit frère le sait et garde ce fait en tête. L'argent lui ouvrirait les portes sur un ciel azur aussi facilement que ses tournevis ouvrent celles des voitures. Le grand standing et tout ce dont il a envie, ça passe mieux quand tu portes un Giorgio Armani. Soucieux du regard des gens, malgré son jeune âge, petit frère fume pour paraître plus grand. Il voudrait prendre l'autoroute de la fortune et ne se rend pas compte qu'il pourrait y laisser des plumes. Il vient à peine de sortir de son œuf et déjà petit frère veut être plus gros que le bœuf.
Petit frère a déserté les terrains de jeu,
il marche à peine et veut des portes de 7 lieues.
Petit frère veut grandir trop vite, mais il a oublié que rien ne sert de courir. Petit frère,
voilà, merci Ayam. On était en train de parler affaires et affairisme. C'est vrai que c'est assez difficile sur le plan statistique de différencier ce qui, dans les nouvelles activités économiques mises en place à Marseille à partir des années 2000, ce qui donc appartient au grand capitalisme international et ce qui appartient à l'économie plus locale. Il y a, c'est certain, un développement d'économie résidentielle et spéculative, on l'a vu, qui se fait peut-être à partir des zones nouvelles, d'Euromède, des ports, etc., mais qui s'étend sur toute la ville. Et en particulier, nos auteurs l'ont vu et l'ont précisé, le petit capitalisme d'affaires de Marseille s'étend aussi dans toutes les zones où l'immobilier est le plus cher, à savoir également le front de mer, mais le front de mer sud, et par exemple l'arrondissement du 8e. Donc c'est vrai qu'il y a des retombées économiques, comme on en a parlé tout à l'heure, à partir du développement global des années 2000. Mais il y a aussi des transformations sociologiques importantes. Et dans le profil politique en particulier des personnes qui sont intervenues dans le monde politique depuis 2000 aussi, émergent un certain nombre de personnalités nouvelles. Et Michel Sanson nous l'a dit en introduction, en particulier le rôle des femmes. Donc c'est vrai que la vie politique locale observée entre 2005, qui était la date de votre, enfin disons, de départ d'études de votre livre précédent, Gouverner Marseille, et 2019, qui est la date de parution de Marseille en résistance. On a vraiment des transformations d'appartenance, on pourrait dire, du personnel politique. Vous l'avez dit avec la France insoumise ou la République en marche, mais on l'a également avec l'apparition beaucoup plus massive des femmes dans la politique. Alors là encore, il y a un effet bien sûr national, puisqu'il y a l'obligation de la parité, mais il y a un effet local avec la venue au pouvoir de personnes qui s'installent ou bien qui vont peu à peu apparaître dans leur rôle politique. Bien sûr, avec Martine Vassal, qui, disons, tient le devant de la scène depuis un certain nombre d'années, et puis d'autres qui sont devenues importantes. Donc, avec Martine Vassal, disons, un petit peu les héritières, et puis avec d'autres, au contraire, des personnalités politiques d'opposition, dont on verra les portraits un petit peu plus tard. Donc on va lire ce que vous avez écrit sur Martine Vassal.
Martine Vassal, présidente du département depuis 2015 et de la métropole depuis 2018, est une vraie héritière, à savoir une personne qui perpétue l'œuvre d'une autre personne, les traditions, les idées des générations précédentes et se situe dans la même filiation spirituelle qu'une autre personne, selon la définition du Centre national des ressources textuelles et lexicales. Pour tracer son portrait de femme politique, le plus simple est dès lors de citer son parrain politique, ce Jean-Claude Gaudin qu'elle admire, vous voit encore et dont elle dit volontiers que c'est un monstre de politique, très intuitif et qui sent les gens comme personne. Renonçant à la présidence de la métropole le 4 septembre 2018, Jean-Claude Gaudin déclare le jour même, en conférence de presse, que sa succession sera assez facile. Martine Vassal est la mieux placée par sa compétence, son autorité, son dynamisme. Elle a fait un sans faute. Elle aura tout mon soutien. Nouvelle venue dans le monde politique, elle est émue que le maire lui propose un poste d'adjointe chargée de la délégation des espaces publics. Elle y apprend à gérer les fonctionnaires municipaux et constate qu'au contraire du métier de chef d'entreprise, il faut là contrôler toutes les strates. Elle y rencontre aussi des gens qui deviendront de fidèles collaborateurs. Le maire garde un œil vigilant sur ses filleuls. Manifestement satisfait du travail de Martine Vassal, il lui demande dès janvier 2002 de remplacer au Conseil général Jean-François Mattei, qui vient d'être nommé ministre de la Santé. « J'ai accepté », confie Martine Vassal. « Monsieur Gaudin est un homme à qui on ne refuse pas grand-chose. » Elle mène alors sa première campagne électorale sous son nom. 17 ans après, elle en garde un souvenir amer et amusé. Il ne connaît presque personne sur le secteur visé. Arrive en tête au premier tour, mais le nombre d'abstentions exige un second tour qu'elle gagne. « Quand on gagne dans ces conditions, on a l'ego relativisé », sourit-elle encore. Comme la plupart de ceux de cette majorité, elle n'est alors qu'une élue presque anonyme dans un groupe dont Jean-Claude Gaudin est le leader, celui pour qui, en réalité, votent les électeurs. C'est néanmoins dans cette foulée qu'elle, qui n'a jamais voulu adhérer à un parti, adhère à l'UMP, créée le 17 novembre 2002. Selon elle, cette adhésion clôt une période où on se dispute les uns les autres alors qu'on est d'accord sur l'essentiel. L'élu municipal et cantonal qu'elle est devenue, même si elle agit de moins en moins dans l'ombre tutélaire du parrain, dépend toujours de lui. En 2008, c'est encore Gaudin qui lui souffle et lui impose, même si elle ne le dit pas clairement, de prendre la direction du groupe d'opposition du Conseil général, dont le socialiste Jean-Noël Guérini est encore président.
Donc, c'est vrai que Martine Vassal, bien sûr, il suffit de lire Accent, la publication du département, pour en avoir régulièrement des photos en première page et dans les pages intérieures. Tout le monde la connaît. Par contre, vous parlez ensuite d'Alexandra Louis, une députée de LRM, donc des 13e et 14e arrondissements, qui s'est engagée en politique lors de la campagne présidentielle de 2017 et qui, sur le plan local, était beaucoup moins connue, voire inconnue. Donc, le portrait d'Alexandra Louis, on va le lire, et puis vous nous direz après comment vous pouvez justement différencier ces personnalités et leur rôle politique.
Alexandra Louis s'est engagée en politique lors de la campagne présidentielle de 2017. Quand nous l'interrogeons alors, elle explique qu'elle est très anti-FN, et lorsqu'on lui demande ce qu'elle vote ordinairement, elle répond qu'elle a voté Chirac une fois, manière de souligner que ce n'est pas ordinaire pour elle. C'était lors du deuxième tour de la présidentielle de 2002 et elle s'en étonne encore, laissant entendre avec un sourire, comme nous le lui suggérons, qu'elle est peut-être de gauche et clairement contre le Front National. Cette jeune avocate n'avait donc jamais milité avant 2017. Elle commence à le faire lors de cette présidentielle aux côtés des partisans d'Emmanuel Macron, tout en continuant à travailler comme avocate. Elle s'occupe beaucoup des procurations et commence à intervenir dans un secteur de Marseille où elle n'habite pas et qu'elle connaît peu. Elle s'y investit, milite avec ceux qui resteront ses plus proches compagnons. Il lui conseille assez vite de postuler dans le 13e-14e, dont le député sortant et le maire de secteur est Stéphane Ravier, membre du courant le plus droitier et sexiste du Front National.
Donc, deux personnalités bien différentes, deux appartenances politiques différentes et surtout deux constructions politiques, enfin disons donc deux venues aux affaires de façon différente. Vous avez envie de commenter un petit peu ces portraits de Martine Vassal et Alexandra Louis ?
Oui, ce qui nous a... D'abord, ce qu'on fait, c'est que Martine Vassal, on insiste et on obtient un entretien d'une heure et demie alors qu'elle n'en accordait jamais pour des raisons que... Je ne vais pas expliquer ici, on insiste tellement qu'elle est obligée de nous recevoir. Alexandra Louis, c'est différent parce que, comme nous avions commencé avant les effondrements, Alexandra Louis, parce qu'avec Peraldi, on se répartit un peu les tâches, je la suivais, si je peux dire, quotidiennement. C'est-à-dire que sa permanence, j'y vais, sinon tous les jours, trois fois par semaine. Et je prends des notes, je parle avec elle, on se tutoie à la fin. C'est une femme tout à fait aimable et à qui aussi j'explique ce que je fais. C'est-à-dire, on vous suit... jour et nuit, jour et jour, vos réunions, etc. Et on assiste à des petites réunions de son équipe, etc. Et on voit, parce que pour Pierre-Desmois, c'est très important, on voit en pratique, par exemple, quand on va à la permanence d'Alexandra Louis, il y a une permanence voilà, sur la rue principale, et il y a trois jeunes femmes. J'avais jamais vu ça. Alors, est-ce que c'est important ou pas ? Oui. Parce que son bras droit, son bras gauche et son troisième bras, ce sont trois jeunes femmes de 25 ans, 30 ans, dont une qui fait des études de Sciences Po et qui travaille beaucoup sur le logement indigne, et puis d'autres, voilà. Donc ça veut dire que le personnel politique change pratiquement. Alors après, est-ce que le fait qu'on a changé le personnel va changer les lignes politiques ? Ça, c'est une question très compliquée, à laquelle on ne répond pas d'ailleurs. Mais on montre ça. Parce que nous, on est des raconteurs. Hein, je veux dire. Souvent, Peraldi et moi, on dit « Ouais, vous êtes expert, qu'est-ce qui va se passer demain ?» Mais moi, j'en sais rien, ce qui va se passer demain. On raconte ce qui change, ou ce qui ne change pas. D'ailleurs, au passage, une parenthèse, il y a des choses dont on ne parle pas du tout dans le livre, parce qu'elles n'ont pas changé. On cite que dans le gouvernement de Marseille, on a écrit ça, ça n'a pas changé, ça ne nous intéresse pas.
Oui.
On regarde. Et voilà. Donc, la différence, c'est qu'effectivement, avec cette parité... qui est effectivement une conséquence de la législation nationale, on voit apparaître des personnages nouveaux. Et effectivement, Martine Vassal est une héritière, on est à tout point de vue. Et Alexandra Louis, pas du tout. Elle est dans une ascension sociale. C'est-à-dire qu'elle n'est pas fille d'avocate depuis trois générations. Elle a passé ses examens, elle a adoré ce métier d'avocate, et elle adhère à La République En Marche parce qu'elle est... on évoque, nous, gauche, ou je ne sais pas quoi... Je ne sais pas ce qu'elle est.
Elle a envie de faire des choses. Elle a quand même envie d'être porteuse de quelque chose de nouveau.
Non seulement ça, mais au moment des effondrements de la rue de Bagne, on s'est aperçu que la seule députée de Marseille qui avait travaillé sur le logement indigne, c'était elle. À cause des rosiers des deux cités que j'ai visitées avec elle, qu'elle connaissait.
Dans le 13e et le 14e.
Dans le 13e et 14e. Et donc, elle s'en était occupée, c'était la seule. Et aucun des autres, ni de droite ni de gauche, n'avait fait ça. Voilà. Donc, c'est ce personnel politique un peu nouveau... qu'on observe. Je précise que dans La République En Marche, il y a quatre députés sur Marseille, il y a deux femmes. elle, et puis l'autre, dont j'ai oublié le nom, qui elle-même est une... Pétel, c'est à Aix. Peu importe son nom, ses parents étaient des enseignants laïcs et de gauche. Mmh. Voilà. D'ailleurs, quand on discute avec les gens de La République En Marche, ceux qui se disent militants, quand on discute avec eux, il y a deux choses qui apparaissent. Ils sont plutôt, franchement, quand on parle des heures avec eux, de centre-gauche et cathos. Et d'ailleurs, on évoque le fait que ça correspond à un courant très puissant dans cette ville, qui est la démocratie chrétienne, même si elle n'a pas le nom officiel. La démocratie chrétienne est un courant très très important dans la ville de Marseille, d'ailleurs, comme je crois.
Mais qui était aussi représenté chez les Républicains.
Absolument, absolument. La démocratie chrétienne, c'est un truc, c'est européen, c'est humaniste, c'est ceci, c'est tout ce qu'on veut. Et ce courant macroniste local correspond assez à ça. Et d'ailleurs, quand on interroge les gens, c'est pour ça que c'est intéressant de faire du terrain longuement. Quand on parle avec X, Y, bah oui, moi je vais à la messe. Non, je vais pas, mais je suis plutôt... On s'aperçoit que ces gens sont des catholiques, comme ça. Ils ne sont pas radicaux, ils en parlent à peu près jamais entre eux, mais ils le sont tous. Voilà. Oui, donc ça nous intéresse de comprendre. Et d'ailleurs, pourquoi c'est intéressant de comprendre ça? Parce que ça explique aussi leur émergence. Ils ne viennent pas du ciel, ces gens-là. Ils viennent de courants puissants dans cette ville depuis des décennies. Et donc, ce qu'on essaie de faire souvent, c'est que, tiens, ça, c'est nouveau. Et puis, quand on cherche ce qu'on appelle les racines ou l'humus, on s'aperçoit que, eh ben oui, ça existait, ce courant, son expression politique est morte, le MRP n'existe plus du tout, mais ça existe. On va dire la même chose. Quand on regarde les collectifs Noailles, quand on interroge les gens qui sont, je parle du collectif Noailles parmi d'autres, mais celui-là, on l'a suivi de près, on s'aperçoit que souvent, ces gens qui sont Nasser Ben Marnia ou X ou Y sont issus d'un courant venu souvent d'Algérie pro-FLN. Ah ben tiens, ah ben oui, mon papa était FLN. Et on va retrouver des gens qui ne sont justement pas de la démocratie chrétienne, qui sont autres.
Oui, il y a un espèce de courant qu'on pourrait appeler centriste, centre-droit ou centre-gauche, qui est un genre de permanence, finalement, dans les terrains de classe moyenne de Marseille. Et puis, quand même, un engagement ou une façon d'être ancré à gauche qu'on va retrouver avec Sophie Camard ou avec les collectifs.
Et vous avez tout à fait raison, Sophie Camard, les collectifs, et l'électorat de M. Mélenchon.
Oui, oui.
Parce que quand on regarde l'électorat de M. Mélenchon...
Oui, enfin, de la France insoumise.
De la France insoumise, oui. Eh bien, on retrouve toute une partie de ces endroits où le vote communiste était fort. Le vote extrême-gauche un peu existant.
Oui, oui.
Et ils vont voter pour Mélenchon, parce que le NPA leur plaît plus, ou parce que le PC, ils trouvent que c'est dépassé. Ça ne veut pas dire qu'ils sont anticommunistes.
Ça veut dire que
le PC, c'est plus ça. Ah, lui, il représente... Voilà. Et finalement, quand on observe dans le détail ces choses-là, on retrouve, c'est amusant de dire ça, mais des grands courants essentiels dans cette ville qui changent peu.
D'accord.
L'expression politique change, mais le courant idéologique dans lequel, culturel dans lequel ils s'inscrivent, lui, ne varie pas du jour au lendemain. Comme ça, La République En Marche, c'est pas tout d'un coup des gens qui arrivent, pouf, ça change tout. Non. Et d'ailleurs, avec le godinisme, il y a des parties qui sont un peu communes. Et il y a eu des discussions assez compliquées au moment des municipales pour savoir ce qu'ils devaient faire. Parce qu'après tout, ils étaient d'accord sur pas mal de choses. Mais ils étaient aussi d'accord avec une partie de la gauche. D'où les embarras pour eux aujourd'hui.
D'accord. Alors, on va s'intéresser, comme vous l'avez fait, à la trajectoire de Sophie Camard, l'émergence, disons, de la personnalité de Sophie Camard en tant que femme élue. Et puis, on verra de façon un petit peu plus approfondie ensuite les collectifs.
La trajectoire de Sophie Camard, déroulée tout entière sur le terrain des luttes menées par les organisations de la gauche radicale, commence dès l'enfance, ou presque, fille d'un ouvrier avré syndiqué à la CGT, qui aimait bien Arlette Laguiller, comme sa maman, elle vient à Paris pour étudier à Sciences Po. « Je suis une vraie enfant de l'ascension sociale que permet l'école républicaine », explique-t-elle encore aujourd'hui. Elle intègre l'IEP Paris à seulement 17 ans, y rédige une thèse sur la politisation des conflits de travail liés à l'emploi et se lie avec la LCR, plus personnellement avec Olivier Besancenot. Cette bosseuse acharnée gagne sa vie comme assistante parlementaire d'un député du PCF. La cité phocéenne éveille en elle un sentiment écologiste. On ne pouvait pas faire du vélo, les déchets partout, les bagnoles. Une sensibilité écologiste qui devient, selon elle, très intime, très vécue et ne la quittera plus. Cette militante de terrain qui déteste les trucs d'appareil à Paris, manière expéditive de désigner les réunions nationales, finit donc par adhérer aux Verts en 2007. Elle vote Voynet à la présidentielle de 2007 et devient assez vite porte-parole et même cadre de ce parti qui se transforme en Europe Écologie Les Verts en 2010. Elle y rencontre les députés européens, s'y impose et devient responsable locale. Mais toujours unitaire, travaillant comme consultante sur les questions sociales, appréciant toujours le syndicalisme et la CGT, elle travaille à l'Union. PCF, Parti de gauche et EELV constituent une liste commune pour les élections européennes. Elle est élue à la région sous l'étiquette EELV en 2015 et devient évidemment co-responsable du groupe. Le livre qu'elle tire de cette expérience, « La politique en état d'urgence », rencontre lucidément de partis traditionnels en perdition. Lors des élections législatives de 2017, alors qu'elle n'appartient pas encore au groupement La France Insoumise, dont elle deviendra en 2019 une leader incontestée, la voilà bombardée suppléante de Mélenchon. En juillet 2019, elle nous explique pourquoi, ou plutôt comment, elle s'est retrouvée encore dans un autre parti. J'ai été choisie comme suppléante de Jean-Luc Mélenchon en tant que personnalité politique écologiste et parce que le score de ma liste au régional était intéressant dans ce secteur. Jean-Luc Mélenchon m'a dit qu'il serait plus simple pour tout le monde qu'on parle d'une seule voix et que je contribue à animer LFI Marseille. On est parti comme ça. Je me suis donc inscrite sur la plateforme LFI en septembre 2017, 3 mois après l'élection du nouveau député de Marseille.
Oui, donc on ressent bien, en effet, cet engagement de Sophie Camard, vraiment à gauche, vraiment écologiste, et en effet intégrée à la France Insoumise, parce qu'à un moment donné, c'est vraiment ce parti qui porte, je ne sais pas si on peut appeler ça les nouveaux espoirs de la gauche, mais en tout cas, une vraie nouvelle image de la gauche, et le fait qu'à Marseille, elle représente ce que vous disiez tout à l'heure, elle représente... à la fois le substrat de gauche de la ville, enfin c'est ce terreau de gauche qui en effet existe, et puis de nouvelles personnalités, de nouvelles couches sociales, des gens qui en effet sont des vrais, enfin des personnes qui ont bénéficié d'une ascension sociale grâce à l'enseignement, grâce aux études universitaires, qui émergent, qui ont des professions en effet de relations avec les autres également, et qui aussi vont se retrouver dans ce qu'on a appelé les nouveaux collectifs. Donc vous êtes centré, vous nous avez dit tout à l'heure que vous aviez particulièrement travaillé autour du collectif Noailles. Moi, j'aurais tendance à dire que c'est un peu dommage qu'on n'ait pas vu peut-être davantage d'autres collectifs dans votre livre de façon détaillée. Mais c'est vrai que les collectifs, c'est vraiment, là, je crois, la véritable marque du renouvellement de la vie politique au sens vraiment de la vie dans la cité. Peut-être pas arrêter dans les partis, mais au contraire, essaimer dans beaucoup de membres de la population. Alors, vous avez envie d'intervenir, je vais vous laisser intervenir. Et puis après, on lira justement ce que vous disiez dans votre livre sur précisément cette émergence des collectifs. Oui.
Oui, c'est ça. C'est-à-dire que le collectif Noailles, qu'on a suivi, encore une fois, des heures et des heures et des heures, parce qu'encore une fois, je le dis, on n'a pas la première réunion, mais la deuxième, qui a duré de 10h du matin à 5h au Molotov, là-haut. On est resté tout le temps. Au début, il y avait 100 personnes. À la fin, il y en a 23, etc. Mais ça discutait. Et donc, après, nous allons régulièrement aux réunions parce que chaque fois, on dit ce qu'on veut faire, un livre. Oui, tu peux venir. Parfois, ça dure 2 heures. Parfois, ça dure 1 heure. Après, il y a les états généraux qui se déroulent à la fac Saint-Charles, oui, où aussi il y a beaucoup de monde. Et puis, on vote à la fin dans un amphithéâtre. Ils disent qu'il y a 2000 personnes. C'est pas vrai, il y en a 400. J'ai oublié, mais on a vraiment... Parce que nous, on compte vraiment. C'est pas parce qu'il y a quelqu'un qui a 1000. Non, on compte un amphi, il y en a 250. Enfin, voilà. Donc, on fait ça. Et effectivement, ça nous a fait constater que le collectif Noailles, qu'on suit dans le détail précisément parce qu'il est nouveau et les autres sont un peu plus anciens et qu'on a choisi celui-là, invente la politique au sens où la ligne n'est pas définie d'avance. Dans les partis politiques, que ce soit le PS ou les autres, la ligne dit ça et les militants appliquent. Plus ou moins. Ils peuvent être dissidents, il peut y avoir plusieurs lignes. Ils s'engueulent entre eux, puis finalement, il y en a une qui sort. Le collectif Noël, c'est l'inverse. C'est que quand ils élaborent la charte du relogement, dont ils trouvent l'idée, justement, le premier samedi où ils se réunissent, et d'ailleurs, comme moi j'étais là, tout le monde est pour, et toi, j'ai voté pour, mais j'étais pas là pour ça. Et puis, ils ont mis des heures et des heures et des heures de réunion sur des mois pour la construire, c'est-à-dire la ligne. On va exiger que soient relogés dans telles conditions, que les enfants puissent aller à l'école, que ceci, que ceci, que cela, ligne après ligne. C'est-à-dire la ligne du parti, de cette association, est inventée collectivement, avec le principe de la ligne rouge.
C'est le principe des collectifs, oui.
C'est le principe. Et après, on fait ce qu'il faut pour appliquer cette ligne. Par exemple, on va faire une manifestation, il y aura à peu près pas grand monde devant la préfecture, pour que la réunion avec le préfet soit écrite. Et non pas, la fois d'après, on a dit ça. Non, 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 monsieur le préfet, vous avez dit ça. Ou nous avons dit, on n'est pas d'accord. Vous avez dit ça, nous avons dit ça. Ou le représentant du préfet. Il faut que ce soit écrit. Et donc on fait une manif pour que ce soit écrit. C'est-à-dire que même la tactique est inventée par le collectif. Ce n'est pas quelqu'un qui va dicter ce qu'il faut faire. C'est l'inverse de ce que furent les partis politiques en France depuis des décennies, décennies, décennies. Ça ne veut pas dire que ça ne discute pas dans le PCF ou ailleurs. Ça discute, mais après c'est comme ça, point final. Mmh. Et souvent, alors ce qui est frappant dans la période qu'on observe, c'est que autant les collectifs font ça, autant ce qui reste des partis, République en marche et autres, c'est l'inverse. Le chef dit, on applique. Parce qu'ils disent ce qu'ils veulent, c'est bien comme ça que ça se passe. Madame Alexandra Louis a été désignée par téléphone par quelqu'un qu'elle ne connaît pas. Mmh. Parce que ses copains disent, tu pourrais te présenter? Oui, d'accord. Elle a au téléphone quelqu'un, et on parle trois quarts d'heure, tu vois. Et le lendemain, oui, d'accord, tu seras la candidate de la République en marche. Apprend-elle par téléphone, et à l'époque, elle ne sait même pas qui lui parle de Paris.
Donc c'est les collectifs, c'est le contraire.
C'est le contraire, exactement. Ce qui en fait aussi une partie de la fragilité.
Oui, oui, bien sûr.
Les deux.
Donc en fait, ces collectifs, on ne va pas en parler davantage aujourd'hui, c'est au fond tout ce qui est à la fin du livre, puisque vous nous dites à la fin du livre, une nouvelle donne, point d'interrogation, et une nouvelle donne, ça repose essentiellement sur les mouvements mis en œuvre par les collectifs, et puis vous avez ensuite écrit une petite brochure qui s'appelle « Marseille Nouvelle Vague », et nouvelle donne, nouvelle vague, eh ben c'est ce que nous verrons peut-être dans notre prochaine émission ou dans une émission qu'on vous présentera bientôt, en essayant de voir cette fois-ci vraiment en 2020, 2021, 2022, ce qui apparaît sur le terrain à Marseille, bien sûr en politique, mais surtout dans la société. Merci Michel Sanson, merci Françoise, et puis on va laisser notre technicien Sidi nous remettre une petite minute de musique.
La vie est belle, le destin sans les cartes, personne ne joue avec les mêmes cartes. Le père se lève le voile, multiples sont les routes qu'il dévoile. Tant pis, on n'est pas né sous la même étoile. Pourquoi fortune et infortune? Pourquoi suis-je né les poches vides? Pourquoi les siennes sont-elles pleines de thunes? Pourquoi j'ai vu mon père en cycle partir travailler juste avant le sien en trois pièces gris et BMW la monnaie? Et une belle femme qui n'épouse pas les pauvres, sinon pourquoi suis-je là tout seul, marié sans dot? Pourquoi pour lui c'est crèche et vacances? Pour moi c'est stade de foot, sans cash, sans filet, sans même une ligne blanche. Pourquoi pour lui c'est l'équitation? Pour moi les bastons, pour lui la coque, pour moi les flics en faction. Je dois me débrouiller pour manger certains soirs. Pourquoi lui se gave de saumon sur lit de caviar? Certains naissent dans les choux, d'autres dans la merde. Pourquoi ça pue autour de moi? Quoi? Pourquoi tu me cherches? Pourquoi chez lui c'était Noël ensoleillé? Pourquoi chez moi le rêve est évincé par une réalité glacée? Et lui a droit à des études poussées. Pourquoi j'ai pas assez d'argent pour acheter leurs livres et leurs cahiers? Pourquoi j'ai dû stopper les cours? Pourquoi lui n'avait pas de frère à nourrir? Pourquoi j'ai dealé chaque jour? Pourquoi quand moi je plonge, je lui passe sa thèse? Pourquoi les cages d'acier, les cages dorées agissent à leur aise?